Bonjour, Madame Redge, comment allez-vous?
Bonjour François, ça va bien et vous?
Ça va très bien. Vous êtes coordonnatrice à l'Association des personnes de petite taille. Et le mois d'octobre, c'est le mois du nanisme au Québec. Et puis là, ça met en opposition un terme médical et puis la façon, je dirais, correcte de décrire la situation que les personnes de petite taille vivent. Parce que souvent, il y a des termes qui sont péjoratifs ou blessants qui peuvent être utilisés.
Oui, ça arrive très souvent, effectivement. C'est pour ça qu'on fait le mois du nanisme. En fait, c'est vraiment pour sensibiliser la population à cette condition qui est mal connue, puis faire tomber les préjugés. Donc, c'est un mouvement qui a été lancé à l'origine par Little People of America.
D'accord.
Et puis, d'autres regroupements dans le monde ont rejoint le mouvement et la QPPT célèbre le mois du nanisme depuis 2013. Donc, c'est notre 9e édition.
On estime à 3 500 la population, le nombre de personnes au Québec qui sont de petite taille. Est-ce que c'est un chiffre officieux? Est-ce que ça ressemble à la réalité selon vous?
Non, en fait, c'est une estimation, parce qu'il faut savoir que le nanisme, toutes causes confondues, c'est environ une naissance sur 10 000.
D'accord.
Donc, on a fait une estimation, et je pense que 3 000, c'est même trop élevé. En fait, je pense qu'on serait plus autour de 1 000, mais on n'a pas de chiffre officiel. Donc, ce serait bien, éventuellement, d'avoir des chiffres officiels. Là, c'est vraiment une estimation qu'on a faite nous-mêmes.
Parce que on peut penser que des gens qui vivent, je dirais, en situation d'isolement souvent, de par leur situation d'handicap. En plus, les gens qui vivent les mêmes challenges sont pas très nombreux. Alors, ça prend vraiment un effort là, pour vous rejoindre tous, communiquer les nouvelles et puis créer un esprit de solidarité, là, parce que c'est une population qui est assez dispersée.
Oui, mais c'est pour ça aussi que l'Association québécoise de petite taille a été créée. C'était vraiment dans l'objectif de réunir en communauté toutes les personnes de petite taille à travers le Québec. Mais c'est vrai c'est très disparate en fait. Quand on parle de petite taille, il y a vraiment des centaines de conditions qui causent la petite taille. Et puis il y a la condition la plus connue, c'est la chondroplasie. Donc ça, c'est l'acteur Peter Dinklage de Game of Thrones a cette condition-là.
Okay.
Donc peut-être pour visualiser. Mais il y a d'autres conditions qui vont être très très rares, on n'a même pas de nom pour ces conditions. Et puis du coup, c'est vrai que c'est assez difficile parfois de rejoindre les personnes de petite taille qui ont des conditions plus rares parce qu'elles vont moins s'identifier à cette figure de la chondroplasie qui est comme la figure un peu classique, on va dire, de la petite taille. Mais c'est ça, nous, on travaille vraiment à rejoindre toutes les formes de nanisme et à toutes les reconnaître de toute façon parce que les personnes vont quand même vivre les mêmes enjeux au niveau des problématiques médicales, au niveau des problématiques sociales reliées au nanisme.
Oui, parce que la situation demeure la même. Je pense, entre autres, on va parler parmi les enjeux, entre autres, je dirais, les transports en commun, surtout dans les régions urbaines. Là. Les stations de métro ne sont pas toujours conviviales pour tous. Il y a beaucoup d'escaliers, souvent pour une personne de petite taille, et c'est tout à fait vrai aussi pour des gens qui vivent toutes sortes d'autres situations. Les stations de métro là, sont laborieuses. Est-ce qu'il y a eu des avancées de ce côté-là? Est-ce que vous êtes en mesure de faire passer votre message?
Oui, c'est sûr que nous, pour tout ce qui est transport, on travaille avec au niveau du RUTA Montréal, donc le regroupement des usagers du transport adapté. On travaille avec eux pour améliorer ça, parce qu'effectivement, c'est un gros problème. Et puis, nous, les personnes de petite taille, la plupart du temps, sont mobiles, mais il y a des personnes de petite taille qui peuvent être en fauteuil roulant.
Exact.
Donc là, dès qu'il y a un escalier, c'est comme n'importe quelle personne en fauteuil roulant, c'est fini. Mais oui, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'inaccessibilité. Accessibilité de l'environnement. Au niveau de la petite taille, ce qui va être compliqué, c'est que tout est beaucoup trop haut souvent. Donc toutes les marches, les comptoirs, les interrupteurs. Ça peut être trop profond aussi parce que souvent les personnes de petite taille ont des bras plus courts. Donc atteindre des choses qui sont profondes, comme par exemple un évier, un robinet, je veux dire, si l'évier est trop large, ça va être très compliqué. Donc au niveau de l'accessibilité, il y a beaucoup de choses à revoir, ça, on est bien d'accord.
Oui, parce que entre autres dans les régions urbaines aussi, même les rues piétonnières, j'ai vu quelque chose à ce sujet-là, les rues commerçantes piétonnières à Montréal ne sont pas tout à fait faciles pour tous et pour toutes. Dans le mois que vous commencez là, de sensibilisation du public, est-ce qu'il y a des thèmes que vous abordez en particulier?
Oui, en fait, nous, on a à chaque année, on a un thème pour le mois du nanisme. Cette année, c'est « Visons l'autodétermination ».
D'accord.
Et en fait, l'idée de ce thème, c'est venu du fait qu'on est dans un contexte où les discriminations vécues par les minorités sont plus médiatisées et reconnues. Donc récemment, il y a tout le mouvement « Every Child Matter », l'anniversaire de la mort de Joyce Echaquan. Mais on se rend compte que les personnes en situation de handicap, on a encore beaucoup de mal, nous, à se faire entendre et à faire reconnaître le capacitisme qu'on peut vivre. Et puis, les personnes de petite taille, elles subissent un traitement particulier. En fait, elles vont souvent être regardées, les gens vont avoir des sourires quand ils les perçoivent. Elles sont perçues comme drôles, comme cute. Elles font souvent face à des commentaires, des situations, des questions qui peuvent être malaisantes dans l'espace public. Donc, tout ça, c'est des micro-agressions qui ont des impacts importants sur l'estime de soi, puis qui peuvent être fatigantes au quotidien. Et donc, vraiment, on voulait viser l'autodétermination et amener le public à revoir ses préjugés. Et donc, pour ça, on a créé un jeu de cartes, en fait, questions-réponses. Ouais. Et puis, les réponses, en fait, vont aider les personnes de petite taille et les parents d'enfants de petite taille à reprendre le contrôle dans des situations qui peuvent être gênantes en public.
Oui. Ben, est-ce qu'il y a 52 cartes? Oui. Ou presque.
Non. Non, malheureusement. Mais on va sûrement faire une deuxième édition l'an prochain.
Ouais, il pourrait facilement y avoir 52 sujets de répartie. Peut-être pour les enfants au début de leur sociabilisation, c'est important qu'ils ou qu'elles se positionnent adéquatement par rapport aux autres enfants dans la cour d'école ou sous le coin de la rue aussi. Ça, c'est important. Peut-être les adultes sont mieux équipés. À l'adolescence, ça doit être difficile aussi.
Oui, ben en fait, c'est toutes des questions assez fréquentes qu'on va retrouver. En fait, que ce soit un enfant, ben c'est sûr que la tournure va être dite différemment si c'est un enfant qui parle à un enfant, mais le contenu reste quand même le même. C'est vraiment les questions courantes, genre « check le nain », tout ce genre de choses un peu idiotes qu'on peut rencontrer. Donc, nous, on a vraiment répertorié avec nos membres, en fait, toutes les situations les plus courantes qui étaient vécues. Et puis, pour les parents aussi, qu'est-ce que leurs enfants de petite taille peuvent vivre? Comme quelque chose qui arrive souvent pour les parents, c'est les autres parents pensent que leur enfant est surdoué parce que l'enfant est petit.
Ah bon?
Ils imaginent qu'il est plus jeune, mais en fait, c'est un enfant de petite taille.
Ah.
Donc, il y a vraiment... ça peut être un peu difficile pour un parent de répondre à cette question-là. Donc, on a vraiment un peu travaillé là-dessus.
On pense que l'enfant a sauté 2-3 années scolaires parce qu'il était... Ouais. Il ou elle était super brillante. Mais c'est simplement parce qu'elle est d'une taille qui est en deçà de la médiane de son groupe d'âge, là, voilà, c'est tout.
Oui, c'est juste ça. Donc, c'est pas forcément évident de répondre quand on est un parent à ce genre de remarques-là, parce qu'on veut pas dire « Ben non, mon enfant n'est pas surdoué, mais il est juste de petite taille. »
Oui, je comprends. Et il y a aussi la problématique des parents qui eux-mêmes sont de petite taille, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a des progrès à faire aussi dans l'acceptation sociale. Les gens, parfois, vont les regarder curieusement, là, mais ça, c'est long, comme je dirais ça, corriger le regard du public là, envers une situation.
Oui, c'est un gros problème. C'est vraiment relié ça au capacitisme de nos sociétés qui fait qu'on ne peut pas imaginer, entre guillemets, qu'une personne en situation de handicap peut être parent, alors que c'est tout à fait possible.
Oui.
Puis nous, c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on a fait l'an dernier le projet Tous parents.
Oui.
C'est un guide sur la parentalité en situation de handicap pour les parents et les futurs parents, donc pour leur montrer finalement que leur projet est faisable, parce que souvent, les médecins connaissent pas bien les conditions, donc ils imaginent que c'est pas possible et ils découragent les futurs parents en situation de handicap.
Oui. Et souvent, la famille autour d'eux aussi va les décourager ou ainsi de suite là, en remettant en doute leur capacité ou tous les dangers qui menacent l'enfant à venir, qui va avoir des parents incompétents, là, c'est ce qu'on imagine.
Oui, c'est ça. Malheureusement, la famille aussi peut être un vecteur de discrimination là, parce qu'ils vont se dire « Mais comment il va faire pour s'occuper de son enfant, pour lui donner le bain, le nourrir, etc. » Alors qu'en fait, il y a beaucoup de techniques qui existent. Il y a la clinique Parents Plus qui a contribué au projet.
Tout
qui
à fait.
Des techniques pour aider les parents. Ouais.
Et à ce sujet-là, Mme Redd, restez à l'écoute parce qu'on va en parler dans quelques minutes. Justement du capacitisme et de la capacité des personnes en situation de handicap, de la parentalité. Vous allez avoir une exposition à l'Écomusée du Fiers-Mondes, je pense, d'ici la fin du mois.
Oui, ça, on ne l'a pas encore révélé, entre guillemets.
Ah, excusez!
Non, mais c'est bon, parce que c'est prévu. Mais oui, c'est un scoop, ça va être à révéler un peu plus tard dans le mois. Mais c'est en lien avec notre thématique aussi, mm-hmm. de vision d'autodétermination. Et effectivement, donc c'est du 27 octobre au 14 novembre.
D'accord.
Et ça va être des portraits grandeur nature de personnes de petite taille, avec des témoignages, en fait. Et puis l'idée, c'est vraiment de montrer que les personnes de petite taille peuvent avoir des vies tout à fait normales et banales. C'est vraiment d'aller démystifier. Et puis l'idée de faire grandeur nature, c'est aussi pour confronter le visiteur au handicap et puis lui montrer peut-être que là, il va plus imaginer les limitations que va vivre la personne en voyant la taille. Et puis c'est aussi pour humaniser, parce qu'on veut quand même montrer que on est des humains derrière le handicap. Et puis c'est ça qu'on met de l'avant dans l'exposition, enfin qu'on va mettre de l'avant.
Parce que souvent aussi, ce qui est mal compris, c'est la problématique médicale là, qui vient avec les différentes sources du problème qui peuvent être soit des problèmes d'articulation, des problèmes squelettiques, musculaires, ainsi de suite. Là, c'est pas facile de vivre nécessairement dans un corps de petite taille. Là, ça peut créer aussi des situations douloureuses, en fait. Pour la personne à vivre. Oui, tout à fait.
Madame... Oui, parce que c'est... Les... Oui, pardon.
Allez-y. Mais j'étais obligé de vous couper. Ah, cette valeur. Mais restez avec nous. Comme je vous dis, on va parler de la parentalité. Alors, c'est certainement quelque chose qui rejoint votre initiative de tous parents. Et ça va rejoindre tout le monde. Je vous remercie beaucoup, Madame Redge.
Bien, merci à vous de nous avoir invités.
Et je souhaite un bon mois et puis une bonne exposition à la fin du mois.
Oui, merci.
Bye.